Bonsoir. La lecture de ce soir se trouve donc dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et ce sera les versets 1 à 8. Évangile de Luc chapitre 18 au verset 1 à 8 et c'est à la page 1175 dans les petites bibles bleues. Donc, page 1175. Parabole de la veuve et du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?»
En janvier dernier, plusieurs médias, journaux, le Parisien, le Journal du Dimanche, ont relayé un témoignage d'un Nord-Coréen réfugié en Angleterre. En voici un extrait. En 2004, j'ai été attrapé dans ma fuite et rapatrié en Corée du Nord. La première question qu'ils nous ont posée avec les autres prisonniers était « Êtes-vous allé à l'église et avez-vous prié en Chine ?» Un homme qui était à côté de moi a nié être allé à l'église en Chine. Mais quand le policier s'est approché, il a eu peur et lui a dit dans quelle église il allait et combien de personnes assistaient au service du dimanche. Il a été battu sans pitié et le sang qui coulait du haut de sa tête nous a tous fait trembler. Il s'agissait là de 2004, nous sommes en 2020. Porte Ouverte sort chaque année son index de la persécution dans le monde et on retrouve à nouveau la Corée du Nord en tête de cet index de persécution. Il y a plus de 70 ans que la persécution contre les chrétiens fait rage en Corée du Nord. Porte Ouverte nous invite régulièrement à prier pour ce pays. Mais est-ce qu'on n'est pas tenté d'arrêter de prier en se disant qu'il faut peut-être passer à autre chose? Et si ce n'est pas tentant pour la Corée du Nord, eh bien on peut penser à d'autres situations d'injustice plus proches de nous. On pense à telle ou telle personne qui vient d'un contexte musulman et dont la famille n'a pas accepté la conversion, qui subit encore des pressions, des brimades. Est-ce qu'il faudrait arrêter de prier pour cette personne, passer à autre chose? Après tout, si on l'a fait tant de temps, est-ce qu'on ne devrait pas passer à autre chose? Je suggère de penser à ce texte, de méditer ce texte en trois temps. La prière qui attend une réponse, verset 1. De cette histoire à nos histoires, verset 2, 8a. Et la question qui attend une réponse. La prière qui attend une réponse d'abord. C'est par une histoire, une parabole que Jésus donne cet enseignement sur la prière. Et dans les paraboles, c'est généralement à la fin qu'on trouve l'explication. Ici, elle est donnée en introduction. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Ça paraît simple, non? Il suffit de continuer à prier, comme Jésus nous y invite, sans se décourager, en sachant que Dieu va répondre. Mais il faut préciser les choses, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une promesse, une réponse à toutes nos prières, quelles qu'elles soient? Dans sa chanson « La cabane du pêcheur », Francis Cabrel raconte l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un garçon. Elle va chercher conseil à la cabane du pêcheur. Et en discutant avec le pêcheur, dans la suite de la chanson, il est question de la prière qu'elle semble faire pour que cette fréquentation puisse aller de l'avant. Il y a sûrement quelqu'un qui écoute là-haut dans l'univers. Peut-être que tu demandes plus qu'il ne peut. Le pécheur laisse entendre que ce serait en dehors des capacités de Dieu de faire cela. Mais contrairement à ce que dit le pécheur, ce n'est pas un problème de capacité. Et si c'est vrai qu'il est possible de prier Dieu pour toutes sortes de sujets, comme on le voit dans les psaumes, il nous faut bien comprendre le contexte de cette prière, le cadre de cette promesse donnée ici. Cette promesse a un cadre, comme ce texte a un cadre. Qu'est-ce qui précède cette parabole ? À la fin du chapitre 17, on a en fait deux conversations. Deux conversations de Jésus, l'une avec des pharisiens et l'autre avec ses disciples. D'abord, les pharisiens viennent à Jésus avec une question. Quand le royaume de Dieu doit-il venir ? Les deux conversations vont concerner le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu doit-il venir ? Et dans leur question, on entend l'idée qu'il viendrait avec fracas, de manière visible, évidente. Mais Jésus leur répond qu'il est déjà là, au milieu d'eux. Le roi qu'ils ont en face d'eux est déjà parmi eux. Le royaume est déjà venu parmi eux. Dans la deuxième discussion, Jésus s'adresse à ses disciples. Il évoque cette fois-ci le temps où il ne sera plus présent physiquement avec eux. Et il leur parle de ce moment où il reviendra pour juger. Écoutez ce qu'il dit, chapitre 17, verset 24. « En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. » Pour parler de cette seconde venue, il parle du Fils de l'homme qui viendra cette fois-ci de manière fracassante, évidente pour tous. Et les allusions au déluge, à Sodome et Gomorre rappellent que c'est pour juger qu'il viendra. Est-ce que vous avez vu les parallèles avec notre texte ? Fils de l'homme, par exemple. Notre texte se termine avec la référence au Fils de l'homme. Ici, dans ce qui était dit au chapitre 17, il était aussi question de la venue du Fils de l'homme. Et de quoi parle Jésus dans notre histoire ? Il ne parle pas de n'importe quel sujet de prière. Il parle du fait de demander justice, que justice soit faite. Justice accordée à une veuve. Entre le moment de la présence de Jésus avec ses disciples et le moment où il reviendra, c'est précisément là, lorsque Jésus est absent physiquement, c'est précisément là que la prière adressée à Dieu, pour que Dieu fasse justice, c'est là qu'elle aura tout son sens. C'est dans ce contexte-là, entre cette présence avec eux, et son retour pour juger que la prière, pour que Dieu fasse justice, a tout son sens. C'est l'occasion de dire un mot sur les temps que nous vivons entre ces deux venues, entre la première venue de Jésus et son retour. Yoël y a fait allusion tout à l'heure, mais certains chrétiens prétendent qu'on devrait aujourd'hui déjà, avoir tous les biens, toute la santé nécessaire, tous les aspects devraient être ouverts de notre vie, famille, travail, dans la vie présente déjà, tout devrait être ouvert. Et lorsqu'on jouit de ces éléments, l'un ou l'autre, il faudrait effectivement le voir comme un bienfait de Dieu, remercier Dieu. Mais nous vivons dans l'attente d'un jour, selon l'Apocalypse, où il n'y aura plus de maladie, plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes non plus. Et l'exemple de cette veuve nous montre précisément que les chrétiens doivent s'attendre à des injustices, qu'il y aura des injustices, comme Jésus et ses disciples en ont subi. Et c'est précisément ces injustices dans le temps présent qui poussent à prier, à se tourner vers Dieu. Ce qui donne du courage aux croyants, ce qui va les encourager à persévérer dans la prière, c'est que Jésus promet une réponse. Jésus promet que justice sera faite à la fin de l'histoire. Mais essayons d'entrer dans cette parabole pour mieux comprendre. De cette histoire à nos histoires, dans versets 2 à 8. Cette histoire de Jésus a deux actes. L'acte 1 décrit les protagonistes et la problématique. Et Jésus choisit des personnages hauts en couleur, vous ne trouvez pas ? Un juge, une veuve, et pas n'importe lesquels. Le juge est mentionné en premier, il nous est dit de lui qu'il ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait d'égard pour personne, verset 2. En Israël, un juge comme celui-là, qui précisément devait être à craindre Dieu, à avoir de l'égard pour les personnes les plus démunies, les veuves, les orphelins, dans l'exercice de la justice. On a tout l'inverse ici, tout l'inverse avec ce juge. Le deuxième personnage, c'est la veuve. Et cette femme est tout en bas de l'échelle de la société. Pas de sécurité sociale, pas de retraite, pas de complémentaire de retraite, pas de mari pour pouvoir pourvoir à ses besoins. À l'époque, être veuve, c'était compliqué. Mais à cela s'ajoute encore une injustice. Il est question d'un adversaire. Est-ce qu'un bien lui a été volé? Est-ce qu'elle a été expropriée? Jésus n'entre pas dans le détail, mais dans tous les cas, elle est en précarité du fait qu'elle est veuve, mais en plus de cela, elle subit une injustice. Et le fait qu'elle plaide pour elle-même, que personne d'autre ne plaide en sa faveur, montre combien la situation est difficile. Son seul espoir, c'est que le juge prononce une sentence juste en sa faveur. Et c'est pour cela qu'elle va constamment le voir en lui disant « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Quand on évalue un peu les forces en présence, quel est le sentiment général? On a d'un côté un homme puissant, un juge qui ne craint ni Dieu, qui n'a d'égard pour personne. Et de l'autre côté, on a une femme tout en bas de l'échelle de la société, qui n'a pas d'autre personne qui plaide en sa faveur, qui subit une injustice. À la fin de l'acte 1, on a l'impression que le match est déjà terminé, que la veuve a perdu, s'est perdue d'avance. Mais Jésus poursuit avec l'acte 2, versets 4 et 5. « Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Jésus nous fait entrer dans la tête du juge. Cette veuve commence à le fatiguer. En fait, le terme ici, à la fin, est même adouci. En grec, l'expression... littéralement donner un coup en dessous de l'œil, on dirait en français lui donner un œil au beurre noir. Alors est-ce que c'est de manière littérale ou imagée? Il a peur qu'elle lui en veuille à ce point-là. Dans le film d'animation Madagascar 2, alors bien entendu c'est parce que j'ai des enfants que je fais référence à. Je n'aurais pas regardé pour moi-même. Mais dans Madagascar 2, on a un duel entre Alex le lion et une dame âgée surnommée Nana. Et un lion face à une vieille dame, on se dit, ben, c'est bon, c'est gagné d'avance, c'est le lion qui va gagner. Sauf que cette dame, elle est intraitable, pour ceux qui l'ont vue. Si elle encaisse des coups, elle en donne deux fois plus. Et en fin de compte, c'est le lion qui est terrassé au sol. Et en partant, elle conclut « La prochaine fois, je ne serai pas aussi tendre. » Ici, la veuve ne donne pas des coups, mais par sa persévérance, par sa détermination à demander que justice soit faite, le juge, il en a marre, il n'en peut plus. Il est lassé, fatigué, éreinté par cette requête et il cède. Il lui accorde justice. Alors comment comprendre cette histoire? Est-ce que Jésus veut nous dire que dans la prière, il faut en quelque sorte tanner Dieu, revenir à la charge, jusqu'à ce qu'il cède, jusqu'à ce qu'il nous accorde ce qu'on demande, répéter sans cesse les mêmes requêtes? En Matthieu 6, quand Jésus enseigne sur la prière, il dit exactement l'inverse. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Jésus ne donne pas ici une vision mécanique de la prière où il suffirait de répéter encore. Il utilise, Jésus, un argument a fortiori. Verset 7. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit ? Les fera-t-il attendre? Dieu n'est pas comme le juge. Et notre relation à lui n'est pas comme la relation de cette veuve au juge. C'est tout l'argument. Dieu est tout l'inverse de ce juge. À la fois parce qu'il est juste, il est source de justice, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes à son image, créés à son image, et qu'il nous chérit. Pour le juge, cette veuve n'est qu'un dossier, un numéro. Mais Jésus présente Dieu comme celui qui nous a choisis. Une manière de parler de ce choix serait de parler en termes d'adoption. Dieu nous a adoptés dans sa famille par Jésus-Christ. Sur la base de son choix, nous sommes devenus ses enfants par adoption. Et il ne ferait aucun cas de nous lorsqu'on crie à lui pour que justice soit faite. Si ce juge-là fait justice, à combien plus forte raison Dieu fera-t-il justice ? C'est tout l'argument. Et à nouveau, le contexte a son importance. Ce n'est pas une réponse à n'importe quelle prière, n'importe quelle requête. Il faut bien écouter parce que sinon on part dans un autre sujet. Quel genre d'injustice est-ce qu'on a ici ? Comment penser, après avoir entendu cette histoire, à nos histoires ? Quel genre d'injustice ? On a parlé des injustices subies par des croyants en Corée du Nord, mais que penser des injustices que l'on peut vivre, même si elles sont moindres, dans notre contexte ? On pense au mépris qu'un croyant peut subir dans son environnement simplement parce qu'il est chrétien. Sur un plan, dans un contexte académique, on pense à un chrétien qui doit subir des regards condescendants, parce qu'il est attaché à la Bible, parce qu'il a des convictions liées à la Bible. Dans un contexte professionnel, quelqu'un qui est privé de promotion, parce qu'il ne se comporte pas comme les autres, parce qu'il est chrétien, parce qu'il refuse de médire, parce qu'il refuse de mentir pour le bien de l'entreprise. Dans un contexte sportif, quelqu'un qui est critiqué parce qu'il ne jure pas comme les autres, parce qu'il ne boit pas comme les autres, parce qu'il ne parle pas des filles comme les autres. Des hommes, inversement. Et ces injustices, elles peuvent prendre d'autres formes. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul parle d'une écharde dans la chair dont il attribue l'origine à Satan. On ne connaît pas la nature exacte de ce qu'il vivait, de ce qu'il subissait, mais on peut voir là aussi une injustice qu'il subissait. Quelles sont vos histoires ? Quelles sont les histoires d'injustice que nous subissons ou auxquelles nous assistons ? Jésus nous invite à prier au Dieu juste en sachant qu'il veut répondre par l'établissement de la justice. Dieu fera justice et nous sommes invités à le prier. Petite remarque là encore sur le contexte. Lorsqu'on prie que justice soit faite, ce serait tentant, n'est-ce pas, de se voir dans la position de la personne parfaitement juste qui dénonce les injustices des autres. Mais la parabole qui suit, qui vient juste après, sera justement à mettre en évidence le fait qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec ce regard condescendant comme le pharisien vis-à-vis du collecteur d'impôts qui se croit juste. Il va falloir venir avec humilité en reconnaissant que nous ne sommes pas nous-mêmes justes par nature. Il s'agit donc de prier que justice soit faite, mais avec une conscience que nous ne sommes pas totalement justes, avec humilité. D'accord, nous sommes encouragés à prier, à demander à Dieu qu'il fasse justice. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par « les fera-t-il attendre ?» Il leur fera rapidement justice. Comment faut-il comprendre cela ? On a parlé des décennies de persécution en Corée du Nord. Dans les Écritures, on pourrait penser à l'apôtre Paul qui, entre les procès en Césarée, à Rome, a attendu des années. Et que dire de s'il est acquitté la première fois, de la sentence de mort qu'il subira la seconde fois ? Comment comprendre la promesse de Jésus ? Alors, comment comprendre ce rapidement pour tous ceux qui ont été condamnés à mort ? On pense à Jésus, à Étienne, à Paul, bien d'autres qui sont morts pour leur foi. Ça signifie probablement pas éviter toute injustice, comme on l'a déjà dit. Mais il arrive que ce soit le cas. Il arrive que ce soit le cas. Il faut voir dans les livres des Actes, Pierre qui échappe à la condamnation à mort d'Hérode, Paul qui échappe à plusieurs complots, tout en sachant qu'ils vont mourir finalement en martyrs. Le contexte, là encore, de cette prière est important à avoir en tête. Si Dieu peut intervenir dans l'histoire, dans le temps présent, le verset 8 mentionne la venue du Fils de l'homme. À la lumière de ce cadre, on peut comprendre ces expressions de deux façons, semble-t-il, sans qu'elles s'excluent nécessairement. Une manière de comprendre ce rapidement, c'est d'y voir une référence au jour du Fils de l'homme. Souvenez-vous de l'allusion de l'éclair à la fin du chapitre 17. Jésus parlait de la venue du Fils de l'homme qui se fera de manière soudaine, rapide. C'est peut-être rapidement dans ce sens-là. Les exemples de Noé, de Lot qu'il utilise vont dans ce sens-là. Une deuxième manière de comprendre, c'est par contraste avec l'éternité. Le temps d'attente pour que justice soit faite peut paraître long dans le temps présent, mais à la lumière de l'éternité, ça paraîtra court a posteriori. C'est à peu près l'argument de Pierre dans sa lettre, à ceux qui se moquent en disant « Où est la promesse de son retour ?» Pierre rappelle qu'aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Les choses sont relativisées. La rapidité, la brièveté des épreuves doit être relativisée. Si c'est ce cadre qui est donné à cette prière, prier un Dieu juste, on peut néanmoins voir dans tous les exaucements, dans le temps présent, un reflet de cette justice qui sera faite à la fin. Paul et Pierre qui sont délivrés de la prison, Job restauré à Siabibi, délivré après quelques 10 ans d'emprisonnement. On peut voir un reflet de cette justice qui viendra à la fin, dans le temps présent. Mais dans sa souveraineté, et parce qu'il nous a choisis pour faire partie de sa famille, Dieu nous invite à le prier pour que justice soit faite, à venir à lui dans la prière, pour qu'il intervienne, qu'il fasse justice. Et si on ne prie pas, quelles sont les alternatives ? Si on ne prie pas, quelles sont les alternatives ? D'une part, c'est le triomphe du cynisme. Dieu ne fait rien pour moi. Dieu n'intervient pas. Il ne fait rien pour moi. Arrivera ce qui arrivera. Dieu est désintéressé de ma situation. Ça ne change rien de prier. C'est ce genre de cynisme, une alternative. Si on ne prie pas que Dieu fasse justice, le cynisme est une première alternative. Une autre alternative, c'est une trop grande confiance en soi-même ou dans nos circonstances. C'est de dire « j'y arriverai, je surmonterai cette difficulté comme j'ai surmonté les autres ». Les choses s'arrangeront, en fin de compte, tout finit par s'arranger. Si on ne prie pas Dieu pour que Dieu fasse justice, eh bien, c'est d'une certaine façon se faire confiance à soi ou estimer que les circonstances iront mieux par la suite. Mais ces deux alternatives doivent faire face à la question que Jésus va amener ensuite. Elles doivent faire face à une question qui attend une réponse, la question qui attend une réponse, verset 8b. La question de Jésus est la suivante. « Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Pourquoi cette question ? Pourquoi ce changement entre la prière et la foi ? Pourquoi est-ce qu'il change de sujet ? Ou est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? C'est parce que nos prières témoignent de notre foi. Si Jésus nous a encouragés à prier Dieu sur la base du caractère de Dieu, sa justice, le fait qu'il entend nos prières et qu'il désire répondre, ne pas prier, c'est exprimer quelque chose sur notre foi, sur notre manière de voir Dieu. C'est exprimer qu'on ne croit pas vraiment à sa bonté. On ne croit pas vraiment à sa justice, on ne croit pas vraiment à son amour, à sa compassion. On n'y croit pas vraiment. On peut même aller plus loin. Cette veuve, elle a poursuivi, elle a continué à demander à un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne, et elle a obtenu gain de cause. Et si nous, nous ne prions pas, c'est d'une certaine façon qu'on voit Dieu comme pire que ce juge, pire que lui. C'est croire que Dieu est totalement insensible, qu'il n'écoutera jamais. Il y a bien un lien entre nos prières et la foi, les injustices que nous vivons et celles auxquelles nous assistons. La foi en un Dieu juste et compatissant nous pousse à persévérer dans la prière sans nous décourager. Parce qu'on est face à cette question, est-ce qu'il y aura la foi au retour du Fils de l'homme? Est-ce qu'il y aura encore cette foi présente? Est-ce qu'il y aura encore des croyants dans le sens fort du terme qui croient à son intervention? C'est la question que Jésus nous pose. Ou est-ce qu'on aura déjà versé depuis longtemps dans le cynisme? Dieu ne s'intéresse pas à ce que je vis. Il n'intervient pas. Ça ne change rien de prier. Est-ce qu'on aura abandonné la foi au profit d'une foi en nous-mêmes ou dans nos circonstances? Tout s'arrangera, j'y arriverai, je n'ai pas besoin de prier. Je me débrouillerai comme j'ai toujours fait. La question de Jésus doit résonner. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Cette histoire met en évidence la bonté de Dieu, sa justice, et nous sommes appelés à le prier en sachant qu'il est juste, qu'il veut faire justice et qu'il le fera rapidement. Il interviendra au temps voulu. Et que ce soit dans cette vie présente, peut-être, à coup sûr, à la fin, lorsque le Fils de l'homme viendra, ce temps paraîtra court, rapide, son intervention. À la fin, dans le livre de l'Apocalypse, il est question des injustices qu'ont subies les croyants, tout au long du livre d'ailleurs. Il est question des prières des martyrs, adressé à Dieu. Comment ce livre se termine-t-il? L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Est-ce que nous continuerons à dire ces paroles comme bien d'autres générations avant nous? Est-ce que nous continuerons à aspirer à ce que son règne vienne, à ce que justice soit faite? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons confesser que nous avons souvent une image tordue de toi, de nous-mêmes, de la vie. Nous préférons placer notre confiance ailleurs, ou alors nous estimons que tu n'es pas assez bon, pas assez juste pour intervenir. Accorde-nous, Seigneur, d'être interpellés par cette question de Jésus et de voir la nécessité dans les injustices que nous subissons, que nous vivons, mais aussi devant celles auxquelles nous assistons, à venir à toi, te priant que tu fasses justice, que tu interviennes, parce que tu es juste, parce que tu es bon, parce que tu aimes ceux que tu as choisis comme tes enfants. Et tu interviendras dans l'histoire, tu jugeras en temps voulu. Le Fils de l'homme viendra. Et c'est notre consolation, c'est notre espérance. Au nom de Jésus. Amen.